Voilà, donc nous sommes contents de vous retrouver. Hein. C'est toujours une joie de venir à Figeac et donc d'ouvrir la parole ensemble. Alors, j'aurai plusieurs lectures ce matin, donc on ira au fur et à mesure. Dans l'église de Vichy, en ce moment, on se penche justement sur la question de ce qui doit caractériser une église, une communauté qui se veut Église de Jésus-Christ aujourd'hui, en 2024, que doit vivre une Église qui se veut une manifestation locale de cette réalité immense et difficile à concevoir qu'est l'Église de Jésus-Christ de tous les siècles et de tous les continents. Donc, il y a quelque chose qui forcément nous dépasse là et pourtant quelque chose qu'il faut vivre ici, ici et maintenant, avec les frères et sœurs que Dieu nous donne. Et bon, il y a toutes sortes de questions qui ont été posées, et on ne va pas y répondre forcément à tout ce matin, mais par exemple, à Vichy, donc, une des questions qui a été posée, c'était qu'est-ce qui est exigé pour la vie de l'Église? Et puis qu'est-ce qui est optionnel? Parce que ça, on aime bien, ce qui est optionnel, on n'est pas obligé. Mais si vous avez circulé, et je pense que c'est le cas pour chacun, même un temps soit peu, vous vous êtes rendu compte que l'Église se vit de façon très variée, suivant les lieux, suivant la culture où elle est implantée, et aussi suivant ses racines dans l'histoire qui a bientôt 2000 ans. Donc, chaque Église a aussi un lien avec l'histoire, alors, elle vient de quelque part, on n'est pas arrivé comme ça, tombé du ciel, on est dans une suite par rapport à ce qui s'est passé avant nous. Puis donc, la question c'est qu'est-ce qui peut nous guider, qu'est-ce qui peut nous orienter pour vivre notre vie d'Église? Alors, si on compare les données bibliques concernant le culte que Dieu a demandé à Israël, avec les indications que nous donne le Nouveau Testament pour la vie de l'Église, il y a de quoi se sentir déboussolé, en fait, il me semble. Par exemple, on peut rappeler que du chapitre 25 au chapitre 40 de l'Exode, on a tous les détails d'un lieu de culte qu'il fallait construire, déjà dans le désert. C'est très, très détaillé. Je dis parfois, Dieu a donné ses instructions à la couture près. Ça va parler à notre ami tout de suite. Il y a tout qui est précisé. Et puis, c'est pas fini, parce que, en fait, quand on ouvre le livre de Lévitique, eh bien, on a les chapitres 1 à 7 qui nous parlent de tous les sacrifices qu'il fallait offrir. Ensuite, le chapitre consacré à qui pouvait officier, qui pouvait offrir ces sacrifices. Et ensuite encore, quelles étaient les conditions pour participer à ce culte. Et c'est énorme, la masse de précision qui est donnée. Tout était clair pour Israël, tout était net. Les Israélites, on pourrait dire, avaient un manuel qu'ils pouvaient consulter. Quand ils avaient une question, mais comment il faut faire pour telle ou telle circonstance, on n'avait qu'à ouvrir le livre et lire et mettre en pratique. Mais lorsqu'on ouvre le Nouveau Testament, eh bien, on chercherait en vain l'équivalent du Lévitique pour la vie de l'Église. Et à la place de ce manuel de l'Église locale qu'on aurait peut-être aimé trouver, il y en a qui se disent peut-être ça aurait été plus simple, nous avons 28 chapitres d'histoire dans le livre des Actes et 28 lettres, donc 21 épîtres et les 7 lettres de l'Apocalypse. Alors, ça veut dire que nous possédons quand même une masse importante de renseignements. D'abord, au sujet de l'inauguration de ce nouveau peuple que Jésus a appelé de ses vœux. Et puis, on a aussi l'histoire des premières décennies. Comment ça s'est mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les premiers chrétiens ont commencé à vivre leur foi en communauté? Et pendant ces premières décennies, l'Évangile et l'Église, aussi s'est répandue à travers tout le monde romain. Des églises ont été implantées, ont vécu, ont souffert souvent. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des idées fausses qu'il a fallu corriger, il y a eu aussi des moments où on a reconnu certains comportements comme étant incompatibles avec la foi, incompatibles avec l'amour fraternel qui était ordonné par le Seigneur. Et malgré tout, les églises ont survécu et se sont multipliées. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que ça continue. Hein. Et nous sommes donc dans cette lignée de ce qui a commencé tout au début, hein, au moment de la Pentecôte. Nous pouvons donc nous réjouir, tout d'abord, d'appartenir à une communauté chrétienne qui témoigne de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, près de là où nous habitons, en 2024. Quand on regarde en arrière, ça veut dire qu'il y a eu aussi beaucoup de fidélité hein, à travers les siècles de chrétiens qui ont transmis hein, cette bonne nouvelle au sujet de Jésus et qui est arrivée jusqu'à nous et qui nous a changés. L'Église, c'est une sorte de construction multiforme, donc, mais aussi internationale. Hein, et cette construction, je dirais, perdure parce qu'elle repose sur des fondements solides. Et j'aimerais ce matin reprendre donc dans la parole quelques-uns des fondements que Jésus a posés lui-même. Je pense que c'est normal que ça parte de Jésus, hein, puisque nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et pendant son court ministère terrestre, hein, à peine 3 ans, le Fils de Dieu a investi beaucoup de temps et d'efforts pour former le noyau qui allait donner ensuite cette église qui porte son nom. Alors ce groupe de 12 hommes n'était pas encore, à proprement parler, une église locale. On pourrait plutôt parler d'une équipe mobile hein, qui sillonnait la Judée, la Galilée, aux côtés du maître, hein, l'écoutant, le questionnant et aussi s'imprégnant de son exemple. Quel privilège d'avoir vécu ces années avec Jésus. Hein. C'est quelque chose qui les a formés et transformés pour la tâche que Jésus allait leur confier. Et cet exemple de Jésus, si on je le rappelle en passant, était... peut-être au contraire de notre exemple, son exemple était toujours cohérent avec ce qu'il enseignait. Et c'est aussi quand même quelque chose qu'on doit chercher à imiter. Mais l'un des premiers principes que les 12 ont dû assimiler à travers cette vie avec Jésus, c'était de former une communauté justement centrée sur Jésus lui-même. Et quand on regarde comment ils ont vécu dans les évangiles, on voit à quel point Jésus est devenu pour eux un centre, le centre. Même lorsque Jésus les envoyait en mission, deux par deux, et là je vous cite Marc 6, quand ils sont revenus, donc à leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigner. Donc même quand ils partaient, c'était pour retrouver toujours le centre, toujours revenir à Jésus, toujours parler à Jésus de ce qu'ils avaient vécu, hein, partager leur vie avec Jésus. Et par rapport à cette question de Jésus comme centre, on peut penser aussi à ce qui s'est passé quand Jésus a enfin été arrêté par les autorités et que Marc nous dit dans son évangile au chapitre 14, tous, à ce moment-là, tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus était leur centre, et sans lui, ils étaient perdus, hein, ils étaient désemparés. Et ce qui montre à quel point il était devenu vraiment le point central de leur existence. Alors, je crois que j'ai vu dans votre recueil ce chant qu'ils aiment bien dans l'église de Vichy, Jésus, sois le centre. Alors, je ne sais pas si vous le chantez souvent, en tout cas c'est là, dans le carnet. Alors chaque fois que je chante ce chant, je me dis, mais je suis en train de demander au Seigneur de devenir ce qu'il devrait être déjà. Parce que qu'est-ce que serait ma vie si Jésus n'était plus le centre? Donc, quand on chante « Jésus soit le centre », c'est une prière, je pense. Et cette requête a pour moi le sens de « Seigneur, aide-moi à te garder au centre de ma foi personnelle et aide-nous en Église à te garder au centre de notre foi communautaire. » Jésus comme centre, ça c'est le premier principe, le premier fondement, on pourrait dire. Mais Jésus ne s'est pas contenté de former 12 hommes. Il a aussi prêché aux foules et beaucoup de personnes se sont reconnues comme disciples. Je pense en particulier aux 70 qui ont aussi été envoyés deux par deux à un moment donné. C'est Luc 10, l'histoire de Luc 10. Et donc très tôt, il apparaît, et là c'est un deuxième principe, je pense qu'il faut, c'est bien de nous rappeler souvent, les disciples du Seigneur forment une communauté avec une mission. Donc Jésus est le centre. L'Église doit être centrée sur Jésus, pas sur elle-même. Et Jésus donne une mission qui en fait nous décentre de nous-mêmes, pour penser au monde, pour penser aux autres, pour penser aux besoins de ceux qui ne connaissent pas encore le Sauveur. Une communauté avec une mission. Mais avant de quitter ses disciples, Jésus leur a donné cet ordre de mission qu'on connaît, je pense, par cœur, mais qui reste en vigueur. Je le redis quand il dit « En allant, faites parmi toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Une mission qui n'est pas encore achevée, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore entendu. Ensuite, après sa mort et sa résurrection, Jésus a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Le livre des Actes commence par ces phrases. Donc, on peut lire dans Acte 1. C'est Luc, évidemment, qui écrit « Dans mon premier livre, son évangile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Et là, on se dit, 3 années de fréquentation quasi journalière du maître n'ont pas suffi. Il a encore fallu 40 jours de cours intensifs entre donc la résurrection et l'ascension, pour les préparer, pour les équiper, pour la mission d'être fondateur de ce qui serait, ce qui doit être, c'est le troisième principe, le peuple de la parole. Il est écrit que Jésus a ouvert leur esprit pour comprendre tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et évidemment, pour les apôtres, les Écritures, c'était notre Ancien Testament. Mais il y avait déjà là de quoi faire pour voir Jésus dans les Écritures. Les 11 n'étaient pas seuls dans cette période. C'est Paul qui nous donne quelques détails. C'est intéressant de rappeler ce qui révèle dans 1 Corinthiens 15. Quand il écrit « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures ». Et là, on voit que Paul, en fait, continue le travail que les apôtres ont commencé à faire, hein, voir Jésus dans les Écritures et en parler. Hein, dire voilà, c'est ça, ça annonçait déjà celui qui devait venir et ce qu'il allait faire. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. C'est toujours ce travail. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, étaient encore vivants à l'époque où Luc a écrit, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, on a un travail qui a dû se faire, que les apôtres ont été chargés de faire, hein, de trouver Jésus dans l'Ancien Testament et d'en parler, de transmettre toutes ces prophéties aussi qui avaient été données à son égard. Alors, après l'ascension, les apôtres rentrent à Jérusalem pour attendre l'accomplissement de la promesse qui devait résonner encore, je pense, à leurs oreilles. Cette promesse que nous connaissons aussi sans doute par cœur, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a promis une puissance. Mais non une puissance pour régner, pour diriger, pour conduire le monde, comme certains des apôtres semblaient l'espérer, d'ailleurs, puisque dans le premier chapitre des Actes, ils lui posent cette question, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Alors, il ne faut pas oublier que Jésus leur avait promis qu'il s'assierait sur 12 trônes pour juger les tribus d'Israël, et certains se sont demandé, « Est-ce que c'est tout de suite, hein? Est-ce que ça va être maintenant ?» Mais Jésus n'aura pas parlé d'une puissance pour diriger, pour dominer. Il aura parlé d'une promesse d'une puissance qui ferait d'eux des témoins, un peuple de témoins et un peuple témoin. J'ajoute un peuple témoin parce que je crois que l'existence même d'une église locale est un témoignage à la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui une église ici à Figeac si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts? Ben, non, certainement pas. Donc, un peuple de témoins qui est aussi un peuple témoin par son existence, par son fonctionnement, par le fait d'être là, de vivre pour Christ dans notre contexte actuel. Et dans un premier temps, cette promesse a suffi pour les garder ensemble. On le voit dans le récit des Actes. La promesse suffit pour les garder ensemble dans l'attente. Mais on découvre aussi que c'était une attente dans la prière. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et là, il y a encore quelque chose qui fait partie des fondements. Parce que ici se dessine un peuple qui prie. Et c'est quelque chose qui caractérise le peuple de Christ depuis le début. Jésus l'a enseigné. Hein, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux hein, ». Les premiers disciples d'ailleurs lui avaient demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Donc, un peuple qui prie, c'est aussi important. Mais vous remarquerez qu'il n'est jamais mentionné ni la fréquence, ni les horaires des réunions. Sous la Nouvelle Alliance, on sait qu'il n'y a pas de lieu central comme le Temple de Jérusalem où il faut aller pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas non plus de cadre contraignant, mais il y a une dynamique qui entretient ce qu'il ne faut pas craindre, je pense, d'appeler de bonnes habitudes. Alors, je sais que les habitudes n'ont pas bonne presse dans notre monde aujourd'hui. On dit qu'il faut casser les habitudes. Hein, faut être spontané, hein, il faut faire comme on le sent. Hein. Mais en fait, il n'y a pas de vie humaine sans habitude. Mais il y a des mauvaises habitudes qu'il faut casser, effectivement, qu'il faut abandonner. Hein, la parole nous le dit. Mais il y a aussi de bonnes habitudes, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, hein, pas que dans le domaine spirituel, mais d'ailleurs, on nous encourage à avoir de bonnes habitudes. Peut-être que vous essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. Hein, vous connaissez le slogan, peut-être, manger, bouger. On peut ajouter dormir, se laver, se brosser les dents, sortir les poubelles. Il y a des habitudes qui font que la vie avance, hein, qu'on ne reste pas coincé dans notre vie. Mais alors, la question que je me pose, pour moi d'abord, mais que je vous pose aussi ce matin, c'est à quoi ressemble notre hygiène de vie spirituelle? Quelles sont les bonnes habitudes que nous avons prises et qui nous aident à continuer à marcher avec le Seigneur? On pourrait le dire autrement, en d'autres termes, comment se concrétise pour nous cette vie centrée sur Christ? Notre appartenance à une communauté en mission, au peuple de la parole. Si je fais partie de ce peuple-là, quel est mon rapport à la parole? Un peuple de témoins, un peuple témoin. Mon appartenance à un peuple qui prie. Voilà. Alors, je pose la question pour moi, je vous laisse la question pour vous. Mais parfois, il y a des habitudes qui se perdent aussi ou qui s'effritent peut-être. Et le Seigneur doit nous ramener au fondement. J'aimerais aussi dire, donc, avant de conclure, un petit mot sur le début, le tout début, ce que j'appellerais le top départ. Pendant 10 jours, les apôtres et les autres disciples attendent à Jérusalem. Alors, est-ce que quelques-uns rongeaient leurs freins, comme on dit? Le texte n'en parle pas, donc on n'a pas besoin de le savoir. Mais au bout de 10 jours, la promesse est tenue. Ce jour-là, à Jérusalem, ils sont quand même environ 120 rassemblés. C'est aussi quelque chose qui caractérise le peuple de Dieu, ce besoin de se rassembler. Alors, s'il n'était que 120, quand, comme on l'a vu, ils étaient au moins 500 en Galilée, ça veut dire que tous les Galiléens n'ont pas pu venir à Jérusalem pour la Pentecôte. Mais personnellement, alors pour ça c'est moi, c'est pas écrit, j'aime penser qu'il y avait là, ce jour-là, Nicodème, Joseph d'Arimathée, et d'autres comme eux, enfin, pour les dire, sortis de la clandestinité, hein, des gens qui avaient entendu, connu Jésus, et qui finissent par venir s'adjoindre au peuple de Dieu. En tout cas, ce jour-là, l'Esprit est donné, et il ne vient pas en catimini. Il ne faut pas qu'on puisse mettre en doute par la suite que quelque chose de tout à fait exceptionnel et unique s'est passé. L'Esprit manifeste sa présence audiblement et visiblement. Ce texte qui nous dit, donc, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et les personnes venues de tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire de tout le monde connu, pour ce qui est des apôtres en tout cas, à l'époque, confesse que chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Alors, j'aimerais juste m'arrêter un instant sur cette expression, parler des choses merveilleuses que Dieu accompli. Parce qu'on passe souvent très vite sur ce texte, et pourtant il y a là quelque chose d'important. On pourrait imaginer, certains ont imaginé, que tout ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens remplis du Saint-Esprit ont dit Alléluia dans toutes les langues et de toutes les personnes qui étaient présentes. Mais il faut comprendre qu'il doit s'agir de parler des choses merveilleuses que Dieu a accomplies en et par Jésus-Christ. Parce que si les disciples et les apôtres n'ont pas parlé de Jésus à ce moment-là, la promesse n'a pas été tenue. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, a dit Jésus. Et donc, dès le départ, ils sont ses témoins. Et les choses merveilleuses dont il était question devaient le concerner. Donc, bien sûr, on retient encore, et c'est absolument essentiel, que l'Église est une communauté habitée par l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Jésus. Et au cœur du message à transmettre, donc depuis le début, il y a Jésus, et il faut qu'on le garde au cœur du message que nous transmettons. Pierre explique à la foule ébahie, d'ailleurs, par ces phénomènes dont ils ont été témoins, Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Voilà, c'est là, dans son discours. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. C'est l'Esprit qui met l'Église en mouvement. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est l'Esprit qui, le jour de la Pentecôte, donne à la parole de Pierre une puissance de conviction qui va toucher 3000 personnes et les amener par la repentance et la foi au salut. Et ces personnes s'engageront de suite, sans attendre, dans la communauté des disciples de Jésus. Et on les voit commencer à adopter les bonnes habitudes qui soutiendront par la suite leur vie spirituelle. Vous retrouverez ça à la fin de l'acte 2. Vous pouvez le relire pour vous-même. Que doit vivre l'Église sous l'impulsion de l'Esprit? C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas donc redire ce matin, mais c'est important pour nous, je pense, de nous rappeler ces fondements et nous dire, bon, c'est ça que le Seigneur veut que nous vivions. Alors bien sûr, la foi a toujours besoin de forme pour s'exprimer. Et si vous voulez rendre un culte au Seigneur en Église, au minimum, il faut vous donner un horaire et un lieu. Sans ça, eh bien, il n'y aura pas de rassemblement. C'est des choses toutes bêtes, mais il faut se mettre d'accord. Il faut qu'on ait ces formes, mais nous avons une grande liberté de les choisir. À quelle heure on se réunit, combien de fois dans la semaine, où, comment, pour faire quoi. Le Seigneur nous donne aussi cette liberté, mais en rapport avec son projet, en rapport avec les fondements qu'il nous a donnés. Et en fait, quand on regarde le monde et l'histoire de l'Église, dans chaque culture, à chaque époque, la foi vivante a trouvé les formes qui permettaient d'exprimer une relation vivante avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé au premier siècle de notre ère, c'est l'histoire que Luc nous raconte dans les Actes. C'est ce qui doit se passer à toutes les époques, y compris à notre époque, bien sûr, et dans notre contexte. Donc, pour terminer, je dirais simplement que le Seigneur nous aide à vivre l'Église comme il l'a voulu, comme il le veut toujours, et aussi à sa gloire. Je vous invite à vous incliner un instant dans la prière. Seigneur, nous te bénissons pour l'Église qui est ton projet. Nous te remercions parce que c'est toi qui, Jésus, qui a formé ces hommes qui allaient mettre en place ce nouveau peuple, assister à sa naissance et à son développement et encore ensuite porter cette bonne nouvelle que tu leur avais confiée. Porter cette bonne nouvelle à travers le monde de leur époque. Et Seigneur, nous te prions aussi pour ce travail qui continue et en particulier pour ceux qui se consacrent à l'évangélisation dans des pays et parmi des populations qui n'ont pas eu vraiment l'occasion d'entendre parler de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son retour attendu. Merci, Seigneur, pour les fondements que tu as posés pour nous. Et aide-nous à rester appuyés sur ces fondements dans notre vie de tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de rester attachés aux bonnes habitudes que tu as inspirées à tes enfants depuis le départ et que tu veux nous inspirer aussi, les uns les autres, d'une façon qui convient à notre existence, à notre travail, à notre programme de tous les jours. Seigneur, il y a des choses qui te tiennent à cœur et nous voulons aussi les prendre à cœur. Aide-nous en cela et que tu nous aides là où nous sommes, à vivre l'Église avec les frères et sœurs que tu nous as donnés et à te glorifier de cette façon-là. Que ton peuple, à Figeac et à Vichy et partout où ce peuple se réunit, que ce peuple soit un témoignage de ta vie, de ton amour, de ta grâce pour ta gloire. Amen.
Amen.